RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis. La caravane de la solidarité en route pour la bande de Gaza est toujours bloquée à Sirte.
Son objectif, briser le blocus de l'enclave palestinienne imposée par Israël. L'État hébreu qui presse l'Égypte notamment de bloquer toutes les marches vers Gaza. Alors que la tension monte encore d'un cran au Proche et au Moyen-Orient. Dans ce journal également, cette attaque d'un convoi de l'armée malienne et d'Africa Corps dans la région de Kidal hier matin. L'armée qui a d'abord démenti, a ensuite affirmé avoir pris le dessus. De son côté, le FLA, Front de Libération de l'Azawad, parle d'une grande victoire. Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle 2026 au Bénin. Le chef de l'État l'a réaffirmé hier dans un discours face aux maires et aux préfets du pays. Vous l'entendrez dans quelques instants. Le Bénin, où la finale du championnat de football se joue aujourd'hui, affiche inédite entre le Djadji FC et le Coton FC, tenant du titre. Vous entendrez l'entraîneur du Djadji FC. Et puis la Côte d'Ivoire, intégrée à la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux, liste mise à jour par la Commission européenne et dont sort le Sénégal. Nouvelle nuit sous très forte tension au Proche et Moyen-Orient. Une pluie de missiles iraniens a touché Tel Aviv et Jérusalem. Téhéran riposte à l'attaque israélienne qui a fait 78 morts et des centaines de blessés selon les autorités. Ce matin, les secours israéliens annoncent la mort d'au moins 3 personnes dans une zone résidentielle touchée par un projectile. C'est dans ce contexte qu'Israël continue de faire pression sur l'Égypte pour stopper toutes les marches vers la bande de Gaza. La caravane Souboun, notamment, formée d'une dizaine d'autocars et d'une centaine de voitures composée de militants de 44 pays, est partie de Tunis le 9 juin. Elle est arrivée à Tripoli mercredi et espère parcourir l'est de la Libye, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Mais le convoi a été bloqué à Sirte. Les derniers développements avec Ouda Ibrahim.
Nous ne reviendrons pas en arrière, assure Wa El Nawar sur sa page Facebook. Ce Tunisien est l'un des coordinateurs de la caravane Soumoud, dont l'objectif est de briser le siège de Gaza imposé par Israël. Mourad Benjeddo, autre coordinateur travaillant depuis Tunis, affiche la même détermination malgré la réticence égyptienne.
Le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères ne concerne pas Soumoud, la caravane de la résistance pour briser le siège de Gaza. Nous sommes tous de nationalité arabe et nous ne venons pas d'ailleurs. Nous ne sommes donc pas concernés par les mesures annoncées. La coordination de travail pour la Palestine à Tunis a contacté l'ambassadeur égyptien pour finir toutes les formalités avant le départ de la caravane et nous avons attendu une semaine pour obtenir les visas et les autorisations sécuritaires pour l'Égypte. Nous sommes conscients qu'on est nombreux. Nous avons donc décidé d'avancer en attendant d'obtenir plus tard les autorisations nécessaires.
Le Caire, qui souhaite la levée de siège de Gaza pour permettre l'accès humanitaire, souligne cependant la nécessité de respecter les procédures pour les délégations étrangères voulant exprimer leur soutien aux droits de Palestiniens et demande une autorisation préalable qu'elle n'accorde pas pour le moment.
Ouda Ibrahim, au Mali, une attaque sur un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs de l'Africa Corps qui ont fraîchement officiellement remplacé ceux de Wagner. Une embuscade tendue par des rebelles indépendantistes du FLA, le Front de Libération de l'Azawad. C'était hier, vendredi matin, au niveau de la localité d'Anoumalan, à une quarantaine de kilomètres d'Aguelok, dans la région de Kidal, dans le nord du pays. D'un côté, le FLA revendique une grande victoire. De l'autre, l'armée malienne, qui a dans un premier temps démenti toute attaque, affirme avoir pris le dessus. Plus de détails avec David Bachet.
Dans un premier communiqué, hier en début d'après-midi, l'armée malienne a d'abord démenti toute prétendue attaque et dénoncé des informations fallacieuses destinées à instiller la peur et perturber l'opinion publique. 2 heures plus tard, un nouveau communiqué de l'état-major revendiquait au contraire une double défaite infligée à un groupe armé terroriste avec un assaut le jeudi et une riposte fulgurante hier. Le convoi logistique de l'armée malienne et de ses supplétifs russes de l'Africa Corps, que l'armée ne mentionne pas davantage que le groupe Wagner dans ses communiqués, même s'il s'agit désormais d'une force officielle de Moscou, était composé d'une trentaine de véhicules. Après une première attaque à l'explosif artisanal jeudi, les rebelles du FLA ont tiré sur le convoi hier matin à l'arme lourde pendant plus de 2 heures. L'armée a ensuite riposté avec des bombardements aériens, drones, avions de chasse et hélicoptères ont été mobilisés. Les deux camps assurent avoir fait des dizaines de victimes, aucun bilan fiable n'a pu être recoupée. Le FLA revendique également avoir pris possession d'une quinzaine de véhicules, dont un blindé et 12 camions. Les rebelles ont diffusé des images de nombreux véhicules détruits ou emportés.
David Bachet, ce n'est pas une surprise, mais Patrice Talon l'a réaffirmé hier. Il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2026 et rendra donc le pouvoir à l'issue de son deuxième et dernier mandat, comme le prévoit la Constitution béninoise. Le chef de l'État s'est exprimé ce vendredi devant l'ensemble des maires et des préfets au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Je vous propose de l'écouter.
Nos railleries actuelles sont faites pour nous exacter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesses. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Que Dieu bénisse le Bénin et vous bénisse. Merci beaucoup.
Les propos du président béninois Patrice Talon recueillis par notre correspondant Jean-Luc Aplogan. Le Niger, à présent, un an après la levée de l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, effectivement décidée par la Cour d'État plus haute juridiction du pays le 14 juin 2024, un peu moins d'un an donc après le coup d'État qui l'a éjecté du pouvoir. Une levée qui ouvrait ainsi la voie à un procès devant un tribunal militaire, les nouvelles autorités accusant Mohamed Bazoum de trahison, mais aussi de complot d'attentat à la sécurité de l'État et apologie du terrorisme. Pourtant, le dossier n'a pas évolué depuis. Aucune procédure engagée contre le président déchu, toujours détenu dans une aile de la résidence présidentielle avec son épouse. Magali Lagrange.
Mohamed Bazoum n'a été entendu qu'une seule fois depuis la levée de son immunité par des enquêteurs de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'était en août dernier. Depuis, selon des sources proches du dossier, plus rien. Le chef de l'État renversé n'a pas été présenté à un juge, il n'a pas été inculpé à ce jour. Il est donc en état d'arrestation illégale, en dehors de toute procédure judiciaire, résume Maître Mamadou Ismaïla Konaté, l'avocat, ancien ministre malien de la Justice, qui appelle régulièrement à la libération de Mohamed Bazoum, juge la situation dramatique et révoltante. Car Mohamed Bazoum reste détenu avec son épouse dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État il y a près de 2 ans. Selon un de leurs proches, le couple occupe ce qui était la chambre d'un de leurs enfants, qui se compose aussi d'un petit salon et d'une salle de bain. Leur porte est gardée et ils ne peuvent prendre l'air sur la terrasse que sur demande. Selon cette même source, Mohamed Bazoum garde le moral. Il continue de recevoir régulièrement la visite de son médecin. Le président renversé n'a jamais signé sa démission.
Magali Lagrange. L'actualité en bref, toujours au Niger, le tribunal militaire de Niamey a inculpé vendredi 3 journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez après une garde à vue de 40 jours dans les locaux de la gendarmerie d'Agadez puis de Niamey. Le doyen des juges les a accusés d'atteinte au moral des troupes pour avoir relayé un article qui évoquait des informations non confirmées sur une prétendue rupture de la coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie. 2 journalistes ont ainsi été placés sous mandat de dépôt. La 3e, seule femme du trio, a été remise, elle, en liberté provisoire avec interdiction de quitter Niamey. La liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux, mise à jour cette semaine par la Commission de l'Union européenne. On y retrouve 6 pays africains, dont l'Algérie, l'Angola, le Kenya, mais aussi la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui pourtant a ces dernières années renforcé son cadre juridique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Explication sur place avec Binta Diagne.
À travers cette mise à jour, la Commission européenne s'aligne sur l'évaluation du GAFI, le groupe d'action financière qui en octobre dernier plaçait la Côte d'Ivoire sur sa liste grise des pays jugés à risque concernant les blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi les lacunes relevées par le GAFI, le manque de transparence sur les enquêtes et les transactions bancaires. Concrètement, les opérateurs financiers européens devront désormais adopter une vigilance accrue dans les transactions impliquant la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas de conséquences sur l'aide au développement ni sur l'aide humanitaire, précise une source proche du dossier. Cette liste de la Commission européenne doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européen qui ont chacun un mois pour rendre un avis. La Côte d'Ivoire a de son côté mis en place un comité pour répondre aux exigences du GAFI. Abidjan doit démontrer, je cite, une augmentation soutenue du nombre d'enquêtes et de poursuites en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il serait utile de limiter le plafond des transactions financières en liquide et de former les personnes exposées à ces situations, à savoir les notaires, les agents immobiliers et les avocats, préconise enfin le docteur Christophe Kwame, spécialiste de la gouvernance des politiques publiques. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et de son côté, le GAFI devrait élaborer une nouvelle évaluation de la Côte d'Ivoire en octobre prochain. La Commission européenne a en revanche estimé que le Sénégal ne faisait plus partie des mauvais élèves en matière de blanchiment d'argent. Mais alors comment Dakar a su s'en sortir? Vous lisez tous les détails dans un article consacré à la une de la rubrique Afrique de notre site RFI.fr. Le Sénégal qui devrait être réévalué en février prochain par le GAFI. Une semaine de discussions, de débats, d'ententes parfois à Nice, dans le sud-est de la France, à l'occasion de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, refermée hier avec l'adoption des engagements de Nice pour l'océan, salués par les cornes de brume des bateaux du port de Nice. Notre envoyé spécial Jeanne Richard liste les principales annonces de la semaine.
La séance est levée.
La principale annonce concerne le traité sur la haute mer. Il ne manque que quelques ratifications pour qu'il entre en vigueur. Et ce sera le cas d'ici septembre, promet Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français de l'océan.
Le fait que nous allons pouvoir donc ratifier ce traité de la haute mer, c'est-à-dire en fait avoir une gouvernance de 50% de la surface du globe, qui pour l'instant était anarchique, c'était un vrai Far West, et que ce traité, c'est des règles pour éviter la prédation industrielle, éviter la pêche illégale, illicite, la surpêche, et pour évidemment créer aussi un système d'air marine efficace et protecteur.
Une poignée de pays se sont aussi engagés contre l'extraction minière dans les fonds marins, de quoi bloquer un code minier jugé dangereux pour l'environnement, d'autres contre la pollution plastique ou encore pour créer de nouvelles aires marines protégées. Mais Julien Rochette, de l'Institut du développement durable et des relations internationales, prévient qu'il faudra aller au-delà des belles promesses.
Il faut rendre les États redevables de tout ce qu'ils viennent d'annoncer à l'UNOC. Et ça, la société civile, les ONG, les scientifiques vont pouvoir revenir avec des billes en disant « voilà ce que vous nous avez dit à Nice, maintenant faisons-le ».
Rendez-vous est donné dans 3 ans pour le prochain sommet des Nations Unies sur l'océan qui sera co-organisé par la Corée du Sud et le Chili.
Un sujet signé à Jeanne Richard, l'une de nos envoyées spéciales à Nice. Et puis du sport pour refermer ce journal, du football avec la finale du championnat du Bénin ce samedi au stade de Grand Popo. Affiche inédite puisque le Djadji FC, leader du classement final de la poule A, affronte le Coton FC, meilleure équipe de la poule B et surtout tenante du titre. De son côté, le club de Diago Tomé rêve d'un premier sacre national, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et à quelques heures du coup d'envoi, je vous propose d'écouter l'entraîneur ivoirien Yaya Koné, persuadé que cette année est la bonne, même si il ne s'emballe pas trop.
Cette finale, nous l'abordons avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Cette saison, nous pensons que Dadje a beaucoup progressé dans son jeu, on a beaucoup plus appliqué. Les jeunes gens sont hyper motivés de pouvoir décrocher ce titre de champion du Bénin. La plupart de mes joueurs n'ont jamais goûté à ce sacre de champion. Pour ces joueurs, il est important pour leur carrière, pour l'avenir de tout ce qu'ils sont en train de faire, voilà, de pouvoir décrocher ce titre. Loin de nous, toute pression, c'est carrément un rêve. Je pense que on va essayer de se donner les moyens pour que ce rêve sera puisse être réalisé. Ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire plaisir au peuple, parce que c'est une première dans la vie du club. Ils sont très motivés.
L'entraîneur ivoirien du Djadji FC, Yaya Koné, au micro de Théophile Aza. Cette finale du championnat de football du Bénin, Djadji FC, Coton FC, coup d'envoi 15h, temps universel, 16h, heure de Cotonou.
Merci, Nemo Rampis, à tout à l'heure.